Chapitre 38. Il appellera. Legrand est venu chercher du matériel à la ferme. Pressé que ses fouilles s'achèvent au plus vite, Adrien coopère. Vous avez besoin de cordes aussi, d'un treuil, du bras de force du tracteur? Ils ont échangé quelques mots concernant le troupeau, la transformation, à l'abri du bâtiment sur lequel les grosses gouttes faisaient un bruit d'enfer. Le TIC a évoqué son péché mignon. Il reviendra lui acheter de la tome, maintenant qu'il sait où se trouve le bout du monde. Vous n'avez vraiment jamais rien remarqué? Rien de rien. Le terrain était en friche. Ce tas de broussailles devait être là depuis des années. C'est un peu glauque d'imaginer qu'un squelette ait pu être enterré si près de chez nous. Si vous saviez tout ce que nous côtoyons au quotidien, nous, les TIC, sommes aux premières loges dans le grand théâtre de l'horreur humaine. Merci pour les planches, j'y retourne. Rémi a guetté de loin cette conversation, en la saisit des bribes. Il a hâte que la cavalerie s'en aille, pour retrouver sa tranquillité. D'un autre côté, il faut bien connaître la vérité concernant ses ossements. Heureusement qu'il n'a pas eu d'enfant avec son ex-femme. Il leur aurait infligé un père emprisonné, aurait dû les abandonner à une mère qui n'aurait pas assumé. Il aurait tout gâché, son existence et quelques autres. Il ne sait même pas s'il en voudra un jour. Il est encore jeune, mais déjà tellement désabusé. Peut-on engendrer quand on a commis l'irréparable? Les gènes sont-ils marqués au sceau du drame? Et s'il avait malgré tout des enfants, que pourrait-il bien leur raconter? Et quel avenir leur offrir dans cette société gangrénée par le profit et la cupidité qui consomment sans penser aux générations d'après? Depuis qu'ils sont arrivés ici, les discussions à ce sujet sont nombreuses. Adrien et Capucine sont des militants convaincus. Clémence, ignorante mais de plus en plus sensible à la cause, et Karine totalement étrangère à la protection du vivant. Elle se demande pourquoi certains en font tout un foin et où est le problème de changer de garde-robe à chaque saison. Elle ne sait pas si son maquillage a été testé sur des animaux et mange beaucoup de viande, parce qu'elle manque de fer. Le genre de femme dont Rémi ne supporterait pas de partager le quotidien. La prison lui a appris la quintessence de la sobriété. Il en est sorti proche du dénuement et se rend compte que la liberté est son seul besoin vital. Il espère que Karine évoluera. Pas pour lui, il s'en fiche. Pour la planète. Que son séjour ici servira au moins à cela. De toute façon, il n'a pas très envie de tomber amoureux. Pourquoi s'embêter à construire une relation qui risque de dégénérer? Le sexe, il s'en arrange quand il en a besoin. De moins en moins. Il peut s'en passer. Il a conscience que tous les hommes ne fonctionnent pas comme lui. Certains ont un appétit intense, comme ce Legrand dont Karine parle avec les yeux qui brillent. Grand jeu de séduction et franc-parler, pour emballer puis consommer. Il trouve Karine décidément bien naïve, une proie facile. Il est parfois tenté de lui ouvrir les yeux, de la mettre en garde, puis se ravise. Elle est assez grande. Lui laisse ce genre de jeu aux autres. Il préfère rester en retrait, timide et réservé. Il a toujours peur de froisser, de blesser, d'abîmer. Peu importe s'il sort de la norme, il veut seulement être en accord avec lui-même. Quand le TIC revient dans l'espace forestier qui les occupe, les cheveux mouillés par la pluie, il déteste porter une capuche. Karine l'attend en haut de l'escalier, assise sous la tonnelle qui canalise la pluie en petits ruisseaux. Sa combinaison salie de terre entr'ouverte tant il fait lourd en ce jour de juillet. Elle a pris des photos en attendant, il vérifie, valide son travail et, une fois qu'elle est redescendue, s'installe à l'aplomb pour remonter les derniers os puis la terre dans le seau. Vous auriez fait une bonne archéologue.
J'aurais peut-être dû,
répond Karine depuis le fond de la cavité. Sa voix d'outre-tombe trahit son émotion.
Vous n'avez pas aimé enseigner l'histoire? Disons que je suis tombé sur le mauvais collègue.
Des mauvais collègues, il y en a partout. Il vous a fait du mal?
Beaucoup. Sinon, je ne serais pas ici.
Alors c'était un mal pour un bien, puisqu'il nous a permis de nous rencontrer.
Une façon de voir les choses?
La meilleure. Après un long moment de silence durant lequel elle ravale ses larmes,
Karine lui annonce qu'elle a creusé sur une quinzaine de centimètres supplémentaires, qu'elle n'a trouvé que de l'argile d'aspect relativement homogène et qu'une source commence à couler sur le côté gauche. « Ok, essayez de la reboucher pour qu'on ne soit pas embêté, et dégagez les pierres si vous le pouvez. » La pluie redouble et le tonnerre gronde de l'autre côté de la montagne. Le vent s'est levé. La tonnelle tremble. Tout le monde est trempé. Karine a trouvé trois petites boîtes au milieu des squelettes. En les ouvrant, le grand a découvert une mèche de cheveux blonds relativement bien conservée. Il pourrait programmer une recherche ADN pour vérifier si un lien existe entre les os et les cheveux. Mais les analyses coûtent cher. Il doit sans cesse faire des choix, gérer son budget avec discernement, privilégier les dossiers brûlants, urgents, médiatisés, et donc accepter l'idée de transmettre cette enquête à un autre service sans forcément en connaître le dénouement. Soudain, un bruit sourd en provenance du trou. « Tout va bien ? La première pierre a basculé. Vous avez pu passer la sangle avant qu'elle ne tombe ? À peu près. Et vous avez eu le temps d'enlever vos doigts ? À peu près aussi. Bon, essayez de la fixer solidement et revenez. Le reste, c'est une histoire d'homme. » Elle refait surface et lui répond par une grimace. Il aime qu'elle résiste. D'autres ne réagissent pas à la provocation parce qu'elles n'osent pas objecter ou qu'elles veulent plaire à tout prix. Ces femmes-là ne l'intéressent pas. Trop facile, trop banale, moins excitante. Une heure plus tard, les trois stèles sont sorties au grand jour. Il a fallu l'aide du tracteur d'Adrien venu en renfort pour les extraire des profondeurs humides. Il a dû slalomer entre les arbres et les roues ont laissé des ornières profondes dans le pré. Il faudra trouver du temps pour les combler. Il constate les dégâts en pensant au travail que cela va susciter. Satané chantier. Les pierres sont alignées dans l'herbe piétinée. Karine et le grand, côte à côte, s'emploient à les frotter avec une brosse rigide pour les débarrasser des résidus de terre. À quelques centimètres de lui, Karine perçoit l'odeur de cet homme, un mélange de sueur et de déodorant généreusement appliqué. Inédit dans le catalogue de ses souvenirs, cet effluve l'envoûte instantanément. Dans les relations humaines, Karine fonctionne à la chimie moléculaire qui convoque son cerveau reptilien. Au premier regard, au premier mot, à la première exhalaison, elle essaie de sentir si la personne sera hostile ou plaisante. Elle s'est beaucoup trompée. Aujourd'hui, elle est sûre. « Je crois que c'est un prénom », lance-t-elle, une petite victoire dans la voix. « O-D-I-L et un F à la fin, mais qui peut être un E abîmé. »
Odile ?
Je crois bien.
Et moi, je pense que j'ai un Émile. Il se sourit avant de gratter ensemble la troisième stèle. Elle sent chez l'homme la même excitation. Deux gosses devant une grotte. Plus rien d'autre n'existe.
Cet aspect-là du métier doit être intéressant, constate-t-elle, concentrée sur sa brosse.
Rencontrer de jolies femmes ? Son sourire n'échappe pas à l'homme qui enchaîne cependant. La résolution d'une enquête est une petite jouissance en elle-même. Il en faut bien de temps en temps. Mais nous n'en sommes pas encore là. Il faudra de toute façon attendre les résultats de l'analyse des ossements.
Tout porte quand même à croire que ce sont là des pierres tombales d'enfants morts dans leur première année, étant donné la date unique.
Je me méfie de tout ce qui porte à croire. Quelqu'un a pu graver des pierres et des prénoms pour nous faire conclure à une affaire largement prescrite, alors qu'elle est plus récente et non résolue. En investigation criminelle, on ne voit que ce que l'on cherche. Si on n'a pas réfléchi avant à toutes les éventualités, on passe à côté de certains indices. Je cherche donc tout ce qui pourrait m'indiquer que l'affaire n'est pas prescrite, qu'elle est récente et qu'on a essayé de brouiller les pistes. J'imagine comme vous que nous sommes face à une simple sépulture datant de la guerre et qu'on va la transmettre au service archéologie du département. Mais cette conviction ne doit pas nous dispenser des vérifications d'usage. C'est quand on est trop sûr de soi que l'on se trompe. La troisième inscription révèle un dernier prénom, François. Pendant que le TIC s'affaire à prendre des photos des pierres de grès, Karine retourne dans la cavité pour finir de creuser à la recherche des derniers vestiges. Elle ressort bredouille une demi-heure et quelques sauts plus tard.
La pluie s'est arrêtée, les nuages se sont dissipés, laissant place aux rayons d'un soleil d'été ambitieux. Un peu partout, dans la forêt parsemée de minuscules parcelles de prairies, de la brume se crée. On voit les branches fumer, chaque brin d'herbe scintiller. De grosses gouttes accumulées sur les feuilles tombent bruyamment des arbres. Karine aime cette atmosphère. L'odeur de la nature lavée qui se réchauffe à nouveau, la pluie qui s'incline devant le soleil en s'évaporant, comme si elle s'en allait sur la pointe des pieds devant son roi. Elle sait que le chantier s'achève, qu'ils vont repartir. Elle demande à Legrand s'il pourra lui transmettre les résultats, lui laisse son numéro de téléphone. Assise sur un tronc d'arbre couché, à l'écart de la zone dont on a enlevé la rubalise, elle regarde les hommes emballer le matériel. Les pierres resteront trop lourdes à transporter. De toute façon, elles ont parlé. Elles ne dévoileront rien de plus. Ordre est cependant donné de les laisser sur place, en attendant. Les gendarmes sont partis. Le moteur du master tourne. Legrand sort, se dirige vers l'arbre mort, s'assoit à côté d'elle. Karine avait apporté des boissons pour fêter la fin du chantier. Personne n'y a touché. Elle essaie de noyer son amertume dans celle du houblon. L'homme lui prend délicatement la bouteille des mains et en boit une gorgée. « Vous n'avez pas peur du Covid, vous ?»«
J'en ai surtout marre de ce fichu virus. Il a gâché l'insouciance des échanges et réussi à anéantir le peu de tendresse qui restait dans cette putain de société individualiste. Laissez-moi donc partager votre bière sans penser au risque. Aujourd'hui, il faudrait faire un test PCR avant d'oser embrasser une personne qui vous plaît. N'est-ce pas ?»
En théorie,
je préfère la pratique, dit-il en approchant son visage.
Elle le regarde sans bouger, perçoit la chaleur de son souffle sur sa joue. Il n'est qu'à quelques centimètres, n'a pas baissé les yeux. Il sourit, puis il se lève et lui fait un clin d'œil.
Je dois filer. J'ai votre numéro.
Karine déteste qu'il parte ainsi. Après avoir poussé la provocation jusqu'à son paroxysme. Il aurait pu. Il n'a pas. Elle y a cru. Se sent un peu idiote. Ou alors, il prend le temps de laisser monter le désir, se dit-elle. Karine savoure cette idée, beaucoup plus agréable que la frustration. Elle rumine quand même. Diderot lui affirmerait qu'elle est trop impatiente. Elle lui rétorquerait qu'elle éprouve un besoin criant de tendresse. S'il n'appelle pas, elle le classera dans la catégorie des salauds ordinaires. Il appellera.